Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'est une figure du 19e siècle, une femme à la tête d'une entreprise. À 27 ans, Barbe Nicole Ponsardin va diriger une petite maison de champagne. C'est elle qui va en faire la marque que l'on connaît aujourd'hui, la veuve Clicquot. Le luxe, le prestige, le champagne, une femme qui innove dans un monde qui s'industrialise, une femme qui va prendre des risques, diriger, inventer, choisir. La veuve Clicquot deviendra une marque internationale, le champagne des tsars. Une femme d'affaires, volontaire, avisée, visionnaire, Barbe Nicole Ponsardin, la première femme à la tête d'une maison de champagne. Je suis Pauline Jacquot, vous écoutez les grandes histoires de l'écho. Et nous partons ensemble à la rencontre de ces femmes pionnières de l'économie. Épisode 2, la veuve Clicquot à l'avant-garde du champagne. Barbe Nicole Ponsardin naît à Reims en 1777. Son père, Nicolas Ponsardin, fait partie de l'élite des négociants de la ville. La famille jouit d'une situation confortable. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse, mais à 21 ans, elle va se marier avec un jeune homme, le fils d'un banquier commerçant de tissus, François Clicquot. Héritera entre autres d'une petite maison de champagne créée par son père en 1772. C'est la maison Clicquot. À cette époque, le champagne gagne en notoriété en France, en Europe. En 1796, la maison Clicquot produit 8000 bouteilles par an qu'elle expédie en France et en Allemagne. L'entreprise se lance sur de nouveaux marchés. La Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Suède et la Russie. Elle vendra en 1804 plus de 60 000 bouteilles, mais l'année suivante, un drame va changer le cours des événements.
En 1805, François-Marie Clicquot, de retour d'une des nombreuses expéditions qu'il faisait à l'étranger pour essayer de vendre son champagne, décède soudainement d'une mauvaise fièvre, peut-être de la tuberculose.
Jean-Marc Vittori est journaliste aux Échos.
Et Barbe Nicole, qui a à l'époque 27 ans, bientôt 28, prend une décision grave. Elle va rester à la tête de l'entreprise familiale, alors que son beau-père lui a conseillé de vendre, ses amis autour aussi. Non, elle s'accroche, elle a pris goût au champagne, elle veut rester là. Elle s'associe dans un premier temps avec Alexandre Fournier, qui lui connaît bien le travail du champagne, et ils essaient ainsi d'avancer.
Mais qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme à prendre les rênes de l'entreprise? C'est encore un mystère aujourd'hui, les historiens manquent d'archives, mais disposent tout de même de quelques indices pour expliquer cette prise de décision.
À l'époque, c'est une jeune entreprise de négoce de champagne. On peut oser une comparaison, on est un peu dans un esprit start-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une industrie installée, on est dans l'expérimental, dans la recherche de nouveaux marchés, de façons de négocier justement ce produit, de le positionner aussi dans une gamme.
Fabienne Moreau est historienne et auteure du livre « Dans les secrets de Madame Clicquot ».
Donc, on peut y mettre l'hypothèse que cette jeune Barbe Nicole Ponsardin, qui est devenue Madame Cliquot, qui a en plus eu un enfant très vite après le mariage, bah peut-être qu'elle a participé un petit peu à des décisions de son mari qui était fortement engagé dans la reprise finalement de l'affaire de son père. Donc peut-être qu'au moment de ce décès brutal, hein, puisqu'il n'y a pas eu du tout de temps de préparation, c'est une maladie qui emporte son mari en quelques jours, bah, ce déclic de se dire mais parce qu'il n'y a pas de repreneur, donc je vais me lancer. On voit dans les archives, il y a un trou, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de lettres. Et d'un seul coup, on voit l'annonce de « La jeune veuve va reprendre les affaires de son défunt mari ».
L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Moi, en tant qu'historienne, j'ai eu accès aux documents, aux lettres, et tout montre vraiment une action particulière, une détermination de cette jeune femme. Elle a 27 ans quand elle reprend la maison. En fait, elle cumule un petit peu les handicaps, c'est-à-dire que c'est une femme dans un monde quand même très masculin, elle est jeune, et en effet, elle est pionnière. Elle est pionnière dans le sens où elle n'a pas de père féminin, on va dire, pour l'aider. Bon, elle n'est pas sortie de nulle part, c'est vrai qu'elle était d'une famille de notables, donc son père, maire de la ville, ça a dû aider quand même pour qu'elle ne se retrouve pas trop empêchée par des jaloux, on va dire, et elle se lance.
Et si elle peut se lancer à l'époque, c'est bien parce que son mari est décédé, c'est son veuvage qui va lui permettre de prendre la tête de la maison de Champagne.
La seule solution pour devenir entrepreneuse au XIXe siècle, c'est d'être une veuve à cause du code civil de Napoléon en 1805, qui est en fait un recul de la condition féminine en France, car les femmes passent en fait sous la tutelle juridique des hommes. Une femme, ses comptes sont sous le contrôle de son père, de son frère, de son oncle, si elle n'est pas mariée ou avant qu'elle soit mariée. Et quand elle est mariée, c'est sous le contrôle de son mari, et ça, ça restera très très longtemps. Il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme ait le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari. Et donc, le seul moment où elle pouvait acquérir son autonomie, son indépendance juridique et économique, eh bien, c'était au cas où son mari décédait.
Voilà donc la veuve Cliquot qui prend des décisions, qui opte pour tel ou tel axe de développement, qui choisit. La veuve Cliquot va développer la petite marque de Reims, mais les premières années de son aventure entrepreneuriale vont s'avérer compliquées.
1805, 1806, 1807, ce sont en réalité des années terribles. Pourquoi ? Bien parce que Napoléon est là, l'Europe est en guerre, il y a des blocus maritimes, donc les voies de circulation maritime, qui sont les voies par lesquelles circulait notamment le champagne, sont bloquées, impossible de travailler. Les ventes de bouteilles de la maison Cliquot baissent de 60 000 à 10 000 en quelques années. Et Fournier claque la porte, il n'en peut plus. Et celle qu'on commence à appeler la veuve Cliquot lui reprend ses parts et décide de continuer.
Barbe Nicole Ponsardin fait alors des choix forts. La maison est soumise à rude épreuve. La veuve Cliquot organise des expéditions clandestines pour contourner les blocus. À partir des Pays-Bas, vers les ports de la mer Baltique, elle perd des cargaisons entières, des milliers de bouteilles au large d'Amsterdam. Mais elle résiste. Elle va axer la stratégie de son entreprise sur un aspect essentiel, la qualité de son vin de champagne.
Elle est toute jeune encore à l'époque, elle a pris la tête de la maison familiale depuis 5 ans, et pour la première fois, elle fait un millésime, elle dit « ça c'est du vin de 1810 ». Alors qu'avant, il y a depuis Dom Pérignon qui avait théorisé la fabrication du champagne, ce moine qui avait théorisé la fabrication du champagne au XVIIe siècle, il avait théorisé avec des assemblages de différents cépages, et c'était devenu des assemblages de différentes années. Barbe dit « non ». On va faire du vin d'une seule année, ça va marquer, avec toujours cette idée de la qualité.
Qualité, 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 tout pour la qualité. Qualité, 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 tout pour la qualité.
Les millésimes, la qualité du vin de Champagne pour avoir le meilleur des résultats, la veuve Clicquot investit dans de nouveaux moyens de production. Parmi les plus emblématiques, il y a la table de remuage. C'est une technique qui permet une rotation d'un quart de tour des bouteilles sur elles-mêmes pour clarifier les vins, les rendre limpides en éliminant les dépôts. C'est son maître de cave, Antoine Aloïs Müller, qui a inventé ce processus. Un processus qui va permettre aussi d'accélérer la production et donc de vendre plus de bouteilles. La veuve Clicquot a su bien s'entourer et particulièrement d'associer d'hommes venus d'Allemagne.
D'abord Louis Beaune, son commercial, qui lui a permis de développer tous ses marchés à l'exportation, notamment en Russie. Il a vécu plusieurs années à Saint-Pétersbourg. Mais donc aussi Antoine Aloïs Müller, son chef de cave, qui a inventé la table de remuage. Et puis ensuite, Edouard Verler, devenu Verler, francisé en Verler. Elle a su travailler avec ces Allemands et ce n'était pas une exception puisque la Champagne s'est beaucoup développée, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais elle s'est beaucoup développée avec des Allemands qui sont venus vers l'ouest de leur pays et qui sont pour un certain nombre arrêtés en Champagne. Et on en trouve encore aujourd'hui la trace dans un certain nombre de grandes marques, Krug. C'est un nom allemand. Heitzig, bien sûr. Röderer aussi. Deutz, Mumm. Les Allemands ont joué un rôle très important dans l'essor du vin de Champagne chez la veuve Clicquot, mais aussi beaucoup plus largement dans toute la région.
La veuve Clicquot va également penser marketing. Elle va penser à l'habillage de la bouteille. Elle va créer cette étiquette ainsi que les initiales VCP, Veuve Clicquot Ponsardin, qui vont être imprimées sur le bouchon de la bouteille. Elle va également investir pour agrandir son domaine viticole.
Elle décide d'acquérir des terres. Elle dit « il ne suffit pas de fabriquer du champagne comme on le faisait avant, en achetant des grappes aux producteurs. Il faut aussi avoir ses vignes. On a ainsi une maîtrise plus complète du processus de production. Quand elle hérite, quand elle récupère l'exploitation familiale, il y a 4 hectares qui sont en main propre. Et quand elle passera les mains en 1866, il y aura 10 fois plus de superficie, ce qui permet de mieux contrôler les cultures. »
Autre innovation à mettre au crédit de la veuve Clicquot, un nouveau champagne rosé de qualité.
On faisait un champagne rosé assez bizarre parce qu'avant elle, on rajoutait un peu du colorant pour faire vite. En fait, une liqueur de baie de sureau. Ça ne lui convient pas. Elle va essayer des assemblages avec des vins de Bourgogne, enfin des choses assez bizarres qu'on ne ferait plus aujourd'hui, bien sûr. Mais elle va aboutir, alors ça c'est une révolution, elle va faire des assemblages avec des vins rouges de champagne. Des vins rouges, notamment de ces parcelles de Bouzy. Donc elle est très proche, on va dire, du produit, comment on élabore ce produit, comment on l'améliore. Et une fois que ça s'est bien calé, elle va s'intéresser évidemment au réseau de distribution. Et là, elle a un coup d'éclat en 1814. On est encore sous le blocus de Napoléon, alors qu'il y a des amateurs de champagne en Russie. Elle va tenter un envoi par bateau, alors que le blocus n'est pas levé. Elle fait charger un navire et elle envoie son super directeur commercial, on va dire, pour accompagner cette cargaison qui arrive la première à Saint-Pétersbourg. Et là, on a à la fois un événement de communication, puisque dans la ville, tout de suite, on annonce l'arrivée de champagne enfin, et en plus du champagne de Madame Clicquot, et elle réimplante en quelque sorte sa marque en Russie, qui est alors le premier pays d'importation du champagne, en tout cas pour la maison Clicquot.
Tout est vendu en moins de 2 jours. Le coup d'éclat est immense. La veuve Clicquot voulait absolument reconquérir la Russie. En 1814, ça y est, c'est chose faite.
«
Le champagne était apprécié avant, mais le fait que Madame Cliquot ait réussi à envoyer cette cargaison en 1814, et en plus avec un vin qui est particulier, puisque c'est le vin de la comète. C'est le vin de 1811. En 1811, il y a une comète qui traverse le ciel au-dessus du vignoble de Champagne. Pas seulement de Champagne, mais on en garde un souvenir très fort en Champagne. Et ce vin est extraordinaire. Pas une grande quantité, mais il a vraiment des qualités importantes. Et là, il y a vraiment aussi un coup marketing avant l'heure. C'est-à-dire qu'on est en 1814, et elle réussit à passer le blocus. Et en plus, elle apporte un vin extraordinaire qu'on appelle le vin de la comète. Et c'est vrai que là, se fonde sans racine, finalement, une marque, une réputation très forte, avec une histoire qui va durer. Donc, en effet, qui va croiser le destin des tsars, de leurs enfants. Et jusque la révolution de 1917, finalement, Veuve Cliquot, c'est un grand champagne en Russie, à tel point qu'en Russie, on appelle le champagne Cliquotskoïe. Cliquotskoïe, c'est la marque et le nom du produit, comme on a des frigidaires qui mentionnent des réfrigérateurs.
1814, la veuve Cliquot devient donc le champagne des tsars et il va continuer à s'inviter à la table des puissants du monde.
Se réunit en 1815 le congrès de Vienne où va s'opérer la partition nouvelle de l'Europe et ce congrès est inondé de champagne, en particulier de champagne Cliquot. Le roi de Prusse sera surnommé à un moment d'ailleurs König Cliquot tellement il aime ce champagne.
La veuve Cliquot envoie ses employés, ses cadres dirigeants, des voyageurs de commerce sur les routes d'Europe, dans les grandes capitales. Elle voyage très peu, elle préfère écrire, elle reste en France, et jamais trop loin de ses terres, jamais trop loin de ses vignes.
Elle est citadine parce que la maison de négoce est installée à Reims, mais elle se déplace, elle a une maison à Bouzy, notamment au cœur du vignoble, puis par la suite elle est au château de Boursault. Donc elle a ce côté assez rustique. Donc, sa seule distraction, c'est sa famille. C'est sa fille, c'est son gendre, qui est vraiment fantasque, et qui lui crée des dîners ou des pique-niques. Sa fantaisie, voilà, c'est dans sa famille.
Sa famille, une fille et un gendre. Mais finalement, quand viendra la question de sa succession, c'est à un de ses plus fidèles associés qu'elle choisira de léguer la maison.
C'est Édouard Verlet qui va reprendre la marque, qui va reprendre la maison, petit à petit. Donc, il y a un temps de passation, et ensuite, elle lui laisse sa main. Donc, c'est un personnage important parce que il va reprendre la maison, mais il va garder le nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison porte toujours le nom de Madame Cliquot. Parce que Édouard Verlet il a compris que tout était construit maintenant sur ce nom et sur cette veuve. Et il va garder en fait la marque.
La veuve Cliquot se retire des affaires au début des années 1850. Elle décédera, 16 ans plus tard, à 89 ans, au château de Boursault. En quelques décennies, elle a fait de son entreprise un fleuron international. Le champagne, la veuve Cliquot, est vendu à Saint-Pétersbourg, Londres, New York en 1866. L'année de sa mort, la maison produit 750 000 bouteilles par an. L'annonce de son décès sera relayée par tous les journaux d'Europe. Merci à Fabienne Moreau, historienne et auteure du livre « Dans les secrets de Madame Cliquot ». Merci à Jean-Marc Vittori, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série sur les femmes pionnières de l'économie réalisée par Willigan, la veuve Cliquot à l'avant-garde du champagne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des grandes histoires de l'écho. On va changer d'époque, on va changer de pays. On part en Angleterre, on va vivre la grève des mineurs, la guerre des Malouines, rencontrer une dame de fer à Downing Street. Nous vous raconterons une révolution de l'autre côté de la Manche, une révolution nommée Margaret Thatcher. N'oubliez pas, pour vous abonner à notre podcast des Échos sur vos plateformes préférées, rendez-vous sur Amazon Music, Apple Podcast ou Spotify. À très vite.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.